Mais Seigneur Jésus, nous désirons te remercier de ce que, si nous avons ce salut et cette espérance, grâce à ton œuvre à la croix, nous avons aussi ces encouragements et cette ressource en considérant ce qu'a été ton chemin, ce chemin d'abaissement, ce chemin d'humilité, ce chemin d'une marche pleinement selon le désir de Dieu, selon ce qui correspond à ses caractères divins. Et pourtant, tu es venu si proche de nous. Et nous sentons aussi en même temps toute la distance qu'il y a en ce que tu étais sans péché. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'apprendre en considérant ce chemin pour prendre notre juste place dans l'humilité aussi bien que dans la pleine appropriation de tout ce que tu nous as donné en toi-même, par ta vie, en nous. Te remettons ces moments, ouvre-nous ta parole, dispose nos cœurs pour l'entendre, y entrer, la recevoir. Nous regardons à toi, tu vois les besoins individuels, les besoins collectifs, les exercices, les attentes, tu connais toutes choses. Nous confions à ta grâce encore en te bénissant. Amen.
Amen.
Pourrions lire un premier verset dans la première épître aux Corinthiens. Chapitre 7. La deuxième partie du verset 31. La figure de ce monde passe. La figure de ce monde passe. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Verset 18. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Premier épître aux Corinthiens, au chapitre 7, nous avons ce verset que la figure de ce monde passe. Nous avons évoqué dans le cantique le chemin ou le sentier que nous devons prendre en traversant ce monde comme un désert. Et avec ce désir de refléter quelque chose des perfections morales du Seigneur Jésus. Et dans dans la dernière strophe, est évoqué notre avenir glorieux dans le ciel. Alors l'apôtre nous dit « La figure de ce monde passe ». Et à travers les semaines passées, les mois passés, nous comprenons l'instabilité des choses de ce monde. Que ces choses sont éphémères et nous comprenons aussi que les pleurs que nous pouvons connaître et les joies que nous pouvons connaître en traversant ce monde seront bientôt finies. Et en comparaison à ce monde qui passe, nous devons prendre conscience que tout ce qui est de Dieu est immuable. Et ces choses sont, qui le concernent dans la perfection de son être sont immuables. Et que Dieu, dans son être, rien ne peut l'atteindre et rien ne peut le troubler. Notre Dieu vit éternellement. Et selon l'expression de l'épître de Jacques, savons qu'en lui, il n'y a pas de variation ou l'ombre d'un changement. Nous devons prendre conscience que la figure de ce monde passe, que nous ne devons pas nous attacher à ce monde et que bientôt, en ce qui nous concerne, tout cela sera fini. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, dans ce chapitre 4, au dernier verset, l'apôtre nous invite à fixer les yeux sur les choses éternelles. Et ces choses qui sont en haut, et de fixer nos yeux, nos regards sur les conseils de Dieu à notre égard. Et de penser à toutes ces choses qui sont placées devant notre foi, invisibles, et qui nous ont été révélées par Christ, comme nous l'avons exprimé dans la prière. Fixer les yeux sur les choses éternelles. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui vient de Christ et qui nous concerne sont des choses éternelles, complètes et parfaites. Et c'est en parfait contraste avec l'instabilité des choses de ce monde. Et l'apôtre, à travers ses épîtres, nous parle de ces choses éternelles sur lesquelles nous devons fixer les yeux et en prendre conscience. Je pourrais lire un premier verset encore dans l'épître aux Romains. Chapitre 6, verset 23. Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. La première chose qui est évoquée pour les croyants, pour ceux qui sont nés de nouveau dans les évangiles, c'est la vie éternelle. Pour les incrédules, il nous est parlé dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, d'un jugement éternel, de tourment éternel, de feu éternel. Mais en ce qui concerne ceux qui ont foi en Jésus-Christ, foi en son œuvre, eh bien, la vie éternelle nous est communiquée. Elle nous est communiquée à la nouvelle naissance et elle est donnée, cette vie éternelle, à celui qui croit au Fils de Dieu. Celui qui entend les paroles du Seigneur et croit, celui qui l'a envoyé a la vie éternelle. Et comme il nous est dit dans la première épître de Jean, eh bien, cette vie est dans son Fils. La première chose, dans les premières épîtres aux Romains, l'apôtre désire fixer nos yeux que ceux qui ont la paix avec Dieu, ceux qui croient, eh bien, ils ont la vie éternelle. La deuxième chose dont il est parlé dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. Durant les jours de sa chair, ayant offert avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, quoiqu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été consommé, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, verset 12, il nous est dit « Et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Verset 14, « Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant ? » Et la fin du verset 15, « Ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. » Épître aux Romains, « Celui qui croit possède la vie éternelle. » Chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, l'apôtre qui a écrit cette épître nous parle d'un salut éternel. Dans le chapitre 9, il nous est parlé d'une rédemption éternelle. Et enfin, d'un héritage éternel. Est-ce que nous avons conscience sans doute que nous avons la vie éternelle, celui qui croit à la vie éternelle. C'est la première des choses que nous réalisons quand nous sommes nés de nouveau, quand nous devenons un croyant, quand nous sommes nés de Dieu. Mais dans ce chapitre 9, nous voyons que le sang de Christ, son propre sang, nous a obtenu une rédemption éternelle. Nous savons que sous l'ancienne alliance, tout était précaire et conditionnel. Mais maintenant, pour le croyant, tout est éternel. Le salut, la vie, la rédemption, l'héritage. Et nous devons prendre conscience que le sang de Christ conserve toute sa valeur éternellement. Et rien ne peut changer. Nous obtenons le salut éternel, nous obtenons une rédemption éternelle, nous obtenons par son œuvre à la croix, non seulement nous avons un accès immédiat à Dieu, non seulement nous avons une conscience purifiée, mais la rédemption de notre âme est pour toute l'éternité. La rédemption, c'est le rachat. Le rachat par le sang de Christ. Et rien ne peut remettre en cause la valeur du sang de Christ. Et nous voyons, et il est souligné dans ce chapitre 9, la valeur infinie du sang de Christ. Le précieux sang de Christ, eh bien, a cette valeur à jamais efficace, et Christ a payé notre rançon, nos transgressions ont été effacées, et en vertu de la mort de Christ, nous recevons et un salut éternel et une rédemption éternelle et un héritage éternel. En traversant la terre, nous devons réaliser que la figure de ce monde passe, mais que, en même temps, nous devons fixer nos yeux sur ce qui est éternel. Est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce que nous pensons à ces choses éternelles qui nous ont été obtenues par le sang de Christ? On pourrait dire peut-être quelque chose sur l'héritage éternel. Il est parlé de l'héritage dans la première épître de Pierre. Il est parlé de l'héritage que nous allons recevoir aussi dans le premier chapitre de l'épître aux Éphésiens. Dans la première épître de Pierre, nous voyons quels sont les caractères de l'héritage éternel que nous allons recevoir. Dans le premier chapitre de l'épître aux Éphésiens, nous voyons plutôt l'étendue de cet héritage. Dans l'épître aux Hébreux, c'est un héritage éternel. Nous avons les caractères de cet héritage. Dans la première épître de Pierre, dans l'épître aux Éphésiens, nous avons l'étendue de tout cet héritage. Un héritage éternel. Première épître de Pierre, chapitre 1er. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, immarcessible, conservé dans les cieux pour vous. En traversant cette terre, nous devons réaliser que notre demeure est dans le ciel. Notre demeure est dans les cieux et que l'héritage éternel qui nous attend, eh bien, est un héritage céleste en dehors de ce monde, mais selon les expressions de la première épître de Pierre, c'est un héritage qui est à l'abri de toute atteinte. Et cette espérance dans cet héritage repose sur un Christ ressuscité. Verset 3 au milieu, il nous est dit « Une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » L'espérance de cet héritage éternel, eh bien, repose sur un Christ ressuscité. La rédemption, le salut, la vie éternelle reposent bien sûr sur la valeur éternelle et infinie du sang de Christ. Et nous voyons ici que l'héritage est plutôt en rapport avec la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et dans ce verset que nous avons lu, nous voyons que c'est un héritage qui nous est réservé. Nous avons un héritage céleste dans les cieux qui nous est réservé. On a dit tout à l'heure que il était à l'abri de toute atteinte, puisqu'il est incorruptible, mais c'est un héritage qui nous est réservé. Et c'est un héritage sans souillure, qui est pur, et rien ne peut le gâter. Et quelque chose d'extraordinaire de penser en traversant la terre à ces choses éternelles que nous est réservé dans les cieux un héritage à l'abri de toute atteinte, à l'abri de toute souillure. Et il nous est dit ici qu'il est conservé dans les cieux pour vous. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas le perdre. Un héritage dans le ciel que nous ne pouvons pas perdre. Avec la certitude que nous y entrerons, que nous posséderons cet héritage. Il nous est conservé, mais dans le but d'y entrer avec la certitude de recevoir toutes ces choses promises par Dieu. Est-ce que, en traversant cette terre, nous pensons que dans les cieux nous est réservé un héritage éternel? Dans les Éphésiens, au premier chapitre, au milieu du verset 10, réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, en lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ, en qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. L'apôtre, dans ces versets qui sont assez difficiles, il faut sans doute passer du temps pour la compréhension, eh bien, l'apôtre nous montre l'étendue de l'héritage et que c'est le propos de Dieu que l'Assemblée soit associée à Christ et part à ce vaste héritage sur lequel il sera le chef. Alors, quel est cet héritage? Ce sont les choses qui sont dans les cieux, verset 10, et les choses qui sont sur la terre. En lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers. L'héritage de Christ, ce sont toutes ces choses réunies en lui, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Voilà l'étendue de l'héritage pour Christ. Mais nous voyons que nous avons aussi été faits héritiers, c'est-à-dire que l'Assemblée, nous aurons une part de cet héritage dans le ciel. Et si nous lisons au verset 11, le « en qui nous avons aussi été faits héritiers », le « nous », on a dit que ça concernait les croyants juifs et les croyants des nations. Et l'apôtre, là, il dit « nous », il associe et les croyants juifs dont il faisait partie, et les croyants des nations. Au verset 13, alors il s'adresse simplement aux croyants des nations en disant « en qui vous aussi vous avez espéré ayant entendu la parole de la vérité ». Et au verset 14, de nouveau, il parle de notre héritage. Et il associe dans ce verset à la fois les croyants juifs et les croyants des nations. Et l'apôtre nous explique que nous partagerons avec les croyants d'origine juive, et nous qui sommes des nations, des croyants des nations, bien nous partagerons ce glorieux héritage ensemble. Et alors est introduit le sujet du Saint-Esprit à la fin du verset 13. Vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse qui est les arts de notre héritage. C'est-à-dire que par l'Esprit Saint que nous savons que, nous l'avons évoqué un peu dimanche dernier, que le corps du croyant être le temple du Saint-Esprit, et par l'Esprit, nous avons les arts de cet héritage, c'est-à-dire que nous pouvons avoir, en traversant cette terre, un avant-goût de cette bénédiction. Et cet héritage, selon l'expression de l'apôtre, est une possession acquise, toujours par le sang précieux de Christ. Est-ce que, en traversant la terre, nous avons conscience que nous possédons la vie éternelle, que nous avons un salut éternel, que nous avons une rédemption éternelle, que nous attend dans les cieux et qui est conservé à l'abri de toute corruption dans le ciel? Un héritage éternel. Quand nous pensons à ces choses, nous nous détachons de tout ce qui concerne ce monde et nous réalisons que que nous ne pouvons pas avoir deux patries. On ne peut pas avoir comme patrie la terre et on ne peut pas avoir comme patrie le ciel. Et en pratique, nous devons choisir. Est-ce que nous réalisons que nous ne sommes plus de la terre, mais que nous sommes du ciel, que notre appel est céleste et que nous sommes en route pour le ciel. Encore un verset dans la deuxième épître à Timothée. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2. Verset 10. C'est pourquoi j'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. L'apôtre nous donne encore une autre perspective de ce qui nous attend dans le ciel. Ici, c'est la gloire éternelle. Et on peut lire aussi un verset dans la première épître de Pierre encore. Je crois que c'est chapitre 5 de la première épître de Pierre, verset 10. « Mais le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle » dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli. À la fois dans la deuxième épître à Timothée et dans la première épître de Pierre, les deux apôtres évoquent les souffrances que nous pouvons connaître en traversant la terre. Des difficultés, des souffrances. Et nous avons une vie sur la terre. On peut avoir une vie de famille, on peut avoir la perte de proches, on peut connaître des souffrances. Et les deux apôtres, quand ils évoquent ces souffrances que nous pouvons connaître, ils tournent tout de suite leurs yeux et désirent que nous tournions les yeux avec eux sur la gloire éternelle qui nous attend dans le Christ Jésus. Alors dans le verset 10 de 2 Timothée 2, il nous est dit « C'est pourquoi j'endure tout pour l'amour des élus ». Donc nous voyons que l'apôtre y traversait les souffrances, hein, « J'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus. » Nous savons que le salut, il y a dans la parole de Dieu le salut initial, complet, définitif. Hein, nous avons ce salut éternel. Il nous est parlé aussi du salut journalier, chaque jour, et nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour connaître cette délivrance, jour après jour, de délivrance du joug du diable, délivrance de tout le péché qui nous environne, et il est appelé ce salut le salut journalier. Et puis dans le ciel, nous connaîtrons le salut final quand nos corps seront semblables à celui de Christ, conformes à celui de Christ. Donc dans la parole de Dieu, quelquefois il y a des contestations ou des difficultés de compréhension. Il faut savoir qu'il y a ces trois saluts, le salut initial complet, le salut journalier en traversant cette terre, et troisièmement, le salut final que nous connaîtrons dans le ciel, tous ensemble. Et alors, L'apôtre, il évoque ici la gloire éternelle. Et il y a au fond rien de passager dans les bénédictions que nous présente cet apôtre, l'apôtre Paul. Il nous présente les choses éternelles. Il veut que nous comprenions et que par la foi nous saisissions toutes les certitudes que nous donne la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, à toutes les pages, nous donne des certitudes, les certitudes pour la foi. Et nous avons besoin d'entrer dans ces choses qui nous donnent cette espérance. Ce sont des choses qui sont établies pour l'éternité. Encore une chose dans la deuxième épître aux Corinthiens, encore. Chapitre 5 de Corinthiens 5. Verset 1er. Car nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux. Nous avons une maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux. C'est la sixième certitude sur les choses éternelles vers lesquelles l'apôtre désire que nos yeux soient fixés. Et alors, dans ce chapitre, au début de ce chapitre, l'apôtre dit « nous savons ». Nous savons. C'est la confiance de la foi du croyant qui peut dire « nous savons », sans l'ombre d'une incertitude. Nous savons que quoi ? Que nous avons une maison éternelle dans les cieux. C'est-à-dire en contraste avec nos corps mortels actuellement, eh bien, dans lesquels nous habitons, eh bien, nous connaîtrons ces corps de gloire dans le ciel qui nous sont préparés. Des corps de gloire de Dieu, et éternels et immortels. Cette maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux, ce sont ces corps glorieux que nous aurons dans le ciel éternellement. Que de certitudes dans le Nouveau Testament. Est-ce que, quand nous perdons des êtres chers, que nous connaissons, quand nous connaissons le deuil et la souffrance de la séparation, eh bien, l'apôtre pouvait dire, nous savons, il n'avait aucune incertitude, mais que nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux. Pour peut-être finir, encore dans Jérémie 31, encore quelques remarques sur ce qui est éternel. Jérémie 31, verset 3. L'Éternel m'est apparu de loin, je t'ai aimé d'un amour éternel. Est-ce que nous goûtons jour après jour l'amour éternel de Dieu? C'est un amour dont Dieu nous a fait don. Et nous savons que dans le ciel, Dieu se reposera dans son amour. Et c'est une expression qui est employée, bien sûr, pour Israël dans Jérémie. Mais ne pouvons-nous pas dire aussi que l'amour dont Dieu nous a aimés, c'est aussi un amour éternel. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Est-ce que nous avons conscience que l'amour de Dieu, c'est un amour éternel? Nous connaîtrons aussi, il nous est dit, une joie éternelle. Je crois que c'est dit aussi pour son peuple terrestre. Peut-être Ésaïe. Ésaïe 61, la fin du verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez le double. Au lieu d'être confondus, ils célébreront avec joie leur portion. C'est pourquoi dans leur pays, ils posséderont le double et ils auront une joie éternelle. La joie éternelle qui attend le peuple terrestre de Dieu, Israël. Mais en ce qui nous concerne, il nous est parlé dans le Nouveau Testament d'une joie ineffable et glorieuse. Si dans le ciel, nous pouvons goûter par anticipation l'amour éternel de Dieu, si nous pouvons goûter aussi par anticipation cette joie ineffable et glorieuse, eh bien, ce sont des choses éternelles que nous goûterons dans le ciel. L'apôtre Paul aussi, je crois que c'est dans 2 Thessaloniciens, il parle d'une consolation éternelle. Nous goûterons aussi dans le ciel une consolation éternelle. Et par-dessus tout, nous serons, et c'est sans doute le dernier point, nous serons auprès du Fils éternel de Dieu. Et rien ne pourra nous séparer de son amour. Est-ce que, en traversant cette terre, nous avons conscience de toutes ces richesses éternelles qui nous attendent, dont nous pouvons goûter un peu aujourd'hui de ce qu'il pourra en être véritablement et éternellement? Est-ce que nous réalisons que dans le ciel, eh bien, nous goûterons l'amour éternel de Dieu? Est-ce que nous réalisons que nous aurons une joie ineffable et glorieuse? Que nous connaîtrons aussi cette consolation éternelle, et cette consolation éternelle sera notre part, que nous serons auprès du Fils éternel de Dieu, et que rien ne nous séparera de son amour.
40.
Notre Dieu, notre Père, te remercions pour ta parole qui nous rappelle toujours tout ce que nous possédons dans le Seigneur Jésus, celui qui est l'auteur, la source, la cause de notre éternel bonheur, celui qui nous a obtenu une rédemption éternelle, une vie éternelle, un héritage éternel, une joie éternelle que nous goûterons alors dans le ciel où nous serons pour toujours avec lui. Si bas, ce sont les peines, les douleurs, les souffrances. Dans le ciel, ce sera la joie, le bonheur et l'éternel. Quelle grâce, Dieu notre Père, de ce que nous possédons le Seigneur Jésus, puissions-nous toujours mieux le réaliser dans nos cœurs, qu'il soit constamment l'objet de nos cœurs, lui qui nous a tout obtenu sur la croix de Golgotha. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ce don merveilleux de ta grâce, et donne-nous toujours de nous réjouir en lui constamment, malgré ce que nous connaissons dans nos vies et dans l'Assemblée. Nous te bénissons pour ta grande bonté, Dieu notre Père, attendant la bienheureuse espérance, la venue du Seigneur Jésus, que nous appelons de tous nos vœux. Nous pensons aussi toujours à nos absents, qui n'ont pu venir aujourd'hui, nous te les confions, tu les connais. Et Dieu notre Mère, mieux que nous te les plaçons sur ton cœur. Aussi dans cette semaine qui s'ouvre à nous, donne-nous ainsi de nous attacher de tout notre cœur à la personne du Seigneur Jésus, attendant sa venue comme il l'a promis. Je viens bientôt. Et en attendant, nous te bénissons et te rendons l'hommage dans ton cœur en son glorieux nom. Amen.
Amen. Et encore. Nous désirons aussi, Dieu notre Père, encore te confier nos frères et sœurs, Benjamin, Caroline, leurs enfants, Pierre, Louis, Henri, pour ces mois qui sont devant eux, que tu les conduises, les accompagnes, les gardes en tous égards, dans ce temps loin, dans un contexte bien différent d'ici, que tu leur fasses du bien, Dieu notre Père, à chacun. Nous te les remettons dans la confiance que toutes choses sont dans ta main et que, comme tu nous l'as rappelé, nos cœurs sont tournés vers ce qui est devant nous, aujourd'hui peut-être encore. Nous te les remettons, Dieu notre Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen.